C'est une réunion qui permettait de refaire le point sur l'historique de ce projet et puis d'indiquer les quelques réalisations possibles qui pourraient le concrétiser, dans la mesure où c'est la première fois que l'ensemble des chefs d'État concernés seront présents ensemble et lanceront officiellement le projet.
Quels sont les enjeux de ce sommet ?
Les enjeux de ce sommet, c'est d'asseoir déjà cette idée, lui donner une consistance institutionnelle. Je rappelle que c'est une idée qui a été portée par le président de la République française, qu'il avait évoquée dès le soir même de son élection, puis qui s'est ensuite transformée, parce que au départ c'était une idée de la République française, mais c'est devenu maintenant vraiment une idée portée à la fois par l'Union européenne et par l'ensemble des pays riverains de la Méditerranée. En fait, il y avait déjà depuis 1995 le processus de Barcelone, mais le processus de Barcelone était porté par les pays européens et proposait un certain nombre de choses aux pays riverains du Sud. Là, la nouveauté de ce Barcelone plus 2, si je puis dire, enfin en tout cas, ou phase 2 de Barcelone plutôt, la nouveauté c'est que c'est vraiment porté à 44 pays, c'est-à-dire les 27 de l'Union, plus l'ensemble des pays riverains.
Est-ce que le sommet ne s'ouvre pas dans un climat qui ne lui est pas très favorable, avec la présence d'Israël qui peut irriter certains pays arabes, les critiques assez violentes de la Libye ou les réticences de l'Union européenne, notamment l'Allemagne?
Oui, il y a eu évidemment, depuis le début du lancement de cette idée, il y a eu un certain nombre de critiques, celles que vous venez d'évoquer. Bon, les critiques, il y en aura forcément, mais la construction politique, économique et si possible aussi culturelle de l'espace euro-méditerranéen est vraiment une tâche importante. L'Europe s'y était attelée, comme je vous le rappelais tout à l'heure, depuis Barcelone, depuis le processus de Barcelone. Et on a bien vu les difficultés de la mise en œuvre de ce processus. On a bien vu aussi les difficultés de la politique de voisinage qui avait été lancée dans les années 2005. La proposition actuelle, même si évidemment elle sera toujours critiquable, et même s'il y a de la part d'Israël ou des pays arabes, même s'il y a de la part de la Libye, même s'il y a quelques réticences aussi par rapport à la Syrie, mais il n'empêche que les acteurs peuvent, sur la base de ce projet, essayer d'apporter une contribution à la construction de cet espace. Voilà, moi, c'est ce que je trouve important par-delà les inévitables difficultés rencontrées. Et il y en aura d'autres.
Quels sont les premiers dossiers sur lesquels va travailler l'Union pour la Méditerranée? On parle de sujets assez consensuels comme l'eau, l'environnement, l'énergie.
Oui, voilà, il y a quelques projets à dimension régionale, c'est-à-dire qu'en mettant vraiment au centre la Méditerranée, et non pas donc des accords simplement bilatéraux, comme le prévoyait la politique de voisinage, mais donc là vraiment des projets à dimension régionale, la question de la dépollution de la Méditerranée, la question de l'énergie solaire, la question des autoroutes maritimes, par exemple, ou la question de l'eau, bien évidemment, mais aussi si on y arrive, la coopération interuniversitaire, la recherche, etc. Bon, il va y avoir comme ça quelques projets qui vont pouvoir être lancés, peut-être 4 ou 5 projets, mais qui ont l'avantage d'être concrets et qui iront plus loin que des accords bilatéraux. Voilà en tout cas la perspective.
Dans un moyen ou long terme, l'Union pour la Méditerranée pourra s'atteler à des dossiers un peu plus épineux?
On peut l'espérer. Personnellement, j'espère aussi que sur ces dossiers-là pourront se greffer des questions relatives au dialogue interculturel ou au dialogue interreligieux. Je crois vraiment que la construction d'un espace de paix en Méditerranée passe aussi par la prise en compte de ces dimensions-là, et pas simplement les questions évidemment très importantes de géopolitique ou d'économie qu'on a évoquées tout à l'heure. Je pense que c'est faisable, en tout cas.
On parle d'une logique de coopération et non d'intégration pour le fonctionnement de cette union. Est-ce que c'est un outil pour apaiser les dissensions dans la région, pour essayer de contourner l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, ou est-ce que c'est une possibilité de renforcer les positions de la France dans sa zone d'influence méditerranéenne?
Il y a certainement un peu de tout ça, mais je crois, pour avoir un tout petit peu suivi ces dossiers depuis quelques temps, je crois quand même que du point de vue européen, et pas simplement français, on est bien conscient de la zone de fracture que représente la Méditerranée. Ou bien on ne considère nos relations avec les pays du Sud que d'une façon protectrice pour l'Union européenne, se reportant d'ailleurs sur eux pour éviter de subir quelques vagues d'immigration. Mais ça c'est voir la Méditerranée par un petit bout. L'avantage d'un tel projet, s'il parvient à se mettre sur pied, c'est qu'il permet vraiment d'envisager les relations avec les pays riverains de la Méditerranée de manière à déployer tout le potentiel de cette zone. Mais cette zone est ou bien on arrive vraiment à faire en sorte que le potentiel se développe, ou bien c'est une zone de fracture qui est très dangereuse. la disparité économique entre le Nord et le Sud est énorme. Donc il peut bien y avoir ensuite par derrière quelques intérêts de tel ou tel pays, mais je crois vraiment que l'enjeu est bien plus large et qu'il est capital pour les années qui viennent. Il est vraiment capital.
Maintenant, sur son fonctionnement, quel sera son financement ?
Alors ça, moi, je n'ai pas d'informations là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura aussi un secrétariat de l'Union pour la Méditerranée.
Qui pose déjà problème au Maroc. Enfin, le Maroc et la Tunisie se disputent le siège de ce secrétariat.
Oui. Donc, du coup, c'est une des questions que le sommet va tenter de régler. Mais en tout cas, c'est important qu'il y ait un secrétariat. Quant à son lieu, bien sûr, la question est disputée. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait un secrétariat. C'est-à-dire qui, à la fois, sur le suivi des projets, de ceux que nous évoquions tout à l'heure, et puis aussi qui permettent un appel à d'autres projets pour la suite. Parce que l'enjeu aussi, c'est que la structure dont nous pouvons nous doter est une certaine durée de vie qui lui permet vraiment de donner des fruits. C'est toujours une difficulté, ça aussi.
Mais en tout cas, l'Union pour la Méditerranée aura une marge de manœuvre suffisante pour mener à terme ces projets ? Ou vous craignez une
coquille vide ? On peut l'espérer. Je n'ai pas assez d'informations pour vous répondre de manière positive ou négative à cette question. Je pense qu'on peut l'espérer.
Sur un plan religieux maintenant, est-ce qu'il y a des contacts entre les églises d'Europe et leurs sœurs de l'autre côté de la Méditerranée ?
Oui, alors là, du point de vue chrétien, il y a plusieurs enjeux au fait de suivre de près ce processus. Moi, c'est en tout cas à ce titre-là que j'y suis mêlé. Je ne suis ni diplomate, ni chargé de quoi que ce soit du point de vue du ministère des Affaires étrangères, mais c'est comme prêtre du diocèse de Marseille et travaillant dans un institut qui, depuis plusieurs années, œuvre au dialogue interculturel en Méditerranée. Moi, il me semble qu'il y a au moins trois facettes par lesquelles l'Église catholique peut être attentive à cela. D'abord parce qu'elle-même, elle a déjà une expérience d'une communion de communautés chrétiennes du pourtour méditerranéen. Donc sa dimension de catholicité fait qu'elle a une certaine expérience, à la fois dans les relations qui se vivent déjà et aussi dans les disparités économiques et certaines formes aussi d'injustice qui sont vécues. Donc elle a là, elle, une expérience. Elle peut la mettre à profit et à contribution. Il y a un deuxième chantier qui, du coup, s'ouvre aussi devant elle, c'est le chantier de l'œcuménisme et en particulier des relations avec l'orthodoxie. La zone méditerranéenne n'est pas simplement une zone de dialogue avec l'islam, c'est aussi une zone de dialogue œcuménique. Et là, le chantier est ouvert. On ne pourra pas construire durablement des relations dans l'espace méditerranéen sans que cela soit accompagné de relations œcuméniques entre catholicisme et orthodoxie. Et puis le troisième volet, c'est la dimension interreligieuse. Bon, là, il y a beaucoup de choses, bien sûr, qui existent déjà. Il y a des relations interreligieuses qui existent, mais vous savez comme moi que le dialogue interreligieux est un programme, mais n'est pas facilement une réalité. Il y a des choses qui ont avancé ces dernières années. Je pense, par exemple, au séminaire de travail qui va avoir lieu à Rome avec des représentants de l'Église catholique par le Conseil pontifical du dialogue interreligieux et puis les représentants musulmans à l'initiative de la fameuse lettre des 138. Bon, il y a des initiatives, mais je pense que c'est important pour l'Église catholique de suivre avec précision et avec intérêt le développement de ce projet politique. Elle a une expérience et elle a en même temps, du coup, une tâche à accomplir en phase avec ce projet, me semble-t-il.
Pax Christi France vient de lancer un réseau pour le pluralisme et la défense des minorités religieuses dans le bassin méditerranéen.
Oui.
Est-ce que l'Union pour la Méditerranée pourra jouer un rôle sur ce dossier ?
Oui, cette initiative fait suite aussi à un petit réseau qui avait été créé qui s'appelait Chrétiens de la Méditerranée il y a déjà 2 ans. Là, la création du réseau que vous évoquez est encore un peu plus large et Pax Christi France est très engagée dans la construction de ce réseau. Oui, il y aura à Marseille le 3, 4, 5 novembre prochain des états généraux culturels de la Méditerranée. C'est un peu comme le volet culturel, si vous voulez, de l'Union pour la Méditerranée. Et dans ces états généraux culturels, il y aura, je crois, 6 ateliers, dont l'un sera sur le thème religion et société. Et dans ce cadre-là, des gens du réseau de Pax Christi, que l'on vient d'évoquer, seront invités. Et nous essaierons, dans le cadre de ces états généraux culturels méditerranéens, de faire valoir l'importance non seulement des relations interreligieuses dans la zone méditerranéenne, mais aussi l'importance l'importance de l'interaction entre les religions du pourtour méditerranéen et puis la modernité, les relations église-société, enfin la façon dont dont le lien entre politique et religion est vécu dans les différents pays de la zone euro-méditerranéenne. Là, il y a un chantier important et délicat.
À partir de quand l'Union pour la Méditerranée commencera ses travaux?
Bah, écoutez, tout va dépendre de la réunion qui va se passer là, ces jours-ci. Hein. Si le dispositif que je vous ai un tout petit peu décrit tout à l'heure se met bien en place, les choses peuvent commencer tout de suite. En tout cas, vous voyez, la partie État généraux culturels est fixée début novembre.
Et cette fois avec la volonté et les moyens qui ont manqué aux précédents essais d'union ou de rapprochement, de coopération entre l'Europe et le bassin méditerranéen.
C'est ça qu'il faut espérer, si vous voulez, c'est que le dispositif européen qui avait été mis en place à Barcelone s'arrime bien, si vous voulez, dans ce nouveau projet. C'est ça aussi qui a été délicat quand... Quand la présidence française l'a lancé, c'était un projet franco-français. Et donc il a fallu qu'il soit beaucoup transformé, amendé, etc. Bon, ça a été fait ces derniers mois. Peut-être faudra-t-il encore aller plus loin dans ce sens-là.
Mais sans dénaturer l'esprit, les amendements et les retouches au projet initial?
Non, pas vraiment, si vous voulez, mais ils étaient soucieux, et à mes yeux, c'est plutôt une bonne chose. Ils étaient soucieux que le projet ne soit pas simplement d'un pays avec des pays riverains de la Méditerranée, mais que ce soit bien l'Union européenne qui se réengage, si vous voulez, dans une relation avec les pays méditerranéens. L'Union européenne a toujours été plutôt tournée vers l'Est. Les relations avec les États du Sud, même si on appelait ça politique de voisinage, a toujours un peu moins d'importance. Donc là, il s'agit au fond de rééquilibrer. Pour que ce soit vraiment rééquilibré, il ne faut pas qu'un seul pays le porte. Il faut que l'ensemble de l'Union européenne se sente engagé. L'idée, c'est quand même aussi, ça c'est quand même nouveau, d'une nouvelle gouvernance, si vous voulez, de ce processus euro-méditerranéen. Jusque-là, dans le processus de Barcelone, ce sont les pays d'Europe. Là, il y aura une coprésidence Nord-Sud qui sera en principe désignée pour 2 ans. Donc il y a une première coprésidence qui va démarrer là. Et puis après, tous les 2 ans, il y aura de nouveau une autre coprésidence pour gérer l'ensemble du processus euro-méditerranéen. Bon, c'est un défi qui ne sera pas forcément facile à réaliser, donc on verra bien. C'est tout l'enjeu de la rencontre de demain ou d'après-demain.